Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le musée du Louvre bat son record de fréquentation en 2018. Une reprise spectaculaire selon la direction. Une preuve surtout que les musées du pays réussissent à trouver une place dans le quotidien des Français, vous l'entendrez.
Et puis nous reviendrons ensuite sur l'arrestation d'une des figures des Gilets jaunes. Éric Drouet est en garde à vue depuis hier soir pour avoir appelé à un rassemblement à Paris non autorisé. Reportage et réaction à suivre.
Dans cette édition encore, nous irons aux États-Unis où la paralysie fédérale pourrait se prolonger un certain temps. Donald Trump l'a concédé hier pour la reprise des débats parlementaires.
Et puis au Venezuela, le nombre d'homicides a légèrement baissé l'an dernier, mais l'explication est inquiétante. La police abat les délinquants pour éviter qu'ils ne tuent ensuite.
Un détour par la Chine, enfin, dans un petit quart d'heure. Elle est le premier pays au monde à avoir Aluni, un engin sur la face cachée de la Lune. C'était cette nuit. À 8h15, Sophie Delpont nous rejoindra pour le billet politique, consacré ce matin au casse-tête des bonnes résolutions d'Emmanuel Macron. 10 200 000 visiteurs. A priori, le Louvre reste devant le Musée National de Chine à Pékin et le Metropolitan Museum of Art de New York. En 2018, c'est indéniable, les musées ont attiré en France. Le Louvre donc en tête, qui passe pour la première fois le cap des 10 millions de visites. Mais aussi la Fondation Louis Vuitton à Paris, toujours, qui a séduit avec son exposition « Être moderne, le MoMA à Paris ». Cette bonne forme s'explique par de nouvelles initiatives, malgré un contexte social chahuté, Guillemette Franquet.
10 200 000 visiteurs au Louvre. Aucun musée au monde n'avait atteint une telle fréquentation jusqu'alors. L'embellie s'explique par le retour des touristes, le succès de l'exposition de la Croix, mais aussi par un public français nombreux, selon le président du Louvre, Jean-Luc Martinez.
Nous avons accueilli 2 500 000 Français l'année dernière, et notamment il faut relever que la fréquentation scolaire est en forte augmentation. Ça signifie en effet que le musée du Louvre est un musée fréquenté par les plus jeunes, et notamment par les enfants et les adolescents.
Le public s'approprie de plus en plus le musée. Des dispositifs pour les personnes en situation de handicap, des formules éphémères, comme l'ouverture pendant 2 jours du musée du Quai Branly avec une discothèque et des projections, ou encore des clips musicaux. Après Will.i.am en 2016, Beyoncé et Jay-Z sont venus tourner Ape Shit dans les couloirs du Louvre. En période de crise, le dialogue change. Le 1er décembre, pendant l'acte 3 des Gilets jaunes, l'Arc de Triomphe est dégradé, des statues y sont cassées. Pour Vanessa Ferret, muséologue, le musée a aussi historiquement un rôle social.
Ces gens tirent profit des symboles de la République. Des individus pensaient aussi y mettre en branle des pouvoirs. Et l'histoire des musées de France est emplie des lieux de mémoire qui rendent compte d'actes de démolition.
Entre démolition et création, le musée s'insère dans le monde contemporain, comme le prouve la multiplication de Fab Lab, des laboratoires de fabrication éphémères aux mains des visiteurs, dans l'enceinte de la Cité de la Science ou du musée d'Orsay.
Guillemette Franquet pour cette analyse. Guillemette qui évoquait les violences à l'Arc de Triomphe à Paris, des statues dégradées. C'était le 1er décembre dernier pendant une mobilisation des Gilets jaunes. Ils veulent toujours se mobiliser. Hier soir, Éric Drouet, l'une des figures controversées des Gilets jaunes, a été interpellé et placé en garde à vue à Paris pour organisation d'une manifestation non déclarée. Il avait appelé à venir près de la Concorde, déposer des bougies en hommage aux manifestants blessés ces dernières semaines. Un appel non déclaré donc en préfecture qui a fini dans la plus grande confusion, comme l'a constaté pour nous Benjamin Mathieu.
Ils n'auront passé que quelques minutes place de la Concorde. Alors qu'ils prennent la direction de la Madeleine, la cinquantaine de militants est encerclée par des CRS et parquée sur le trottoir.
Pourtant, on n'a rien fait de. On n'a pas de gilets jaunes, on manifeste pas, rien du tout.
Éric Drouet en profite pour répondre aux journalistes.
On s'est pas arrêté, pas d'attroupement, rien du tout, on est en train de marcher. Tant qu'on marche, normalement, on a le droit d'aller où on veut. Et là, aujourd'hui, bah non, ils veulent pas.
Mais les choses se tendent, des CRS infiltrent le groupe pour arrêter cette figure du mouvement des Gilets jaunes. Une femme enceinte est secouée, tout comme des personnes âgées. Le trentenaire est difficilement sorti, emmené par plusieurs CRS. Les soutiens d'Éric Drouet sont écœurés. Comme Farouk Fargo, qui ne comprend pas.
On l'a protégé avec notre corps. La police m'a blessé et m'a blessé aux côtes. C'est indigne d'un pays qui ne respecte même plus la liberté de circuler et la liberté de se réunir. C'est grave.
Une arrestation musclée qui s'est déroulée sous l'œil médusé des touristes qui passaient par là.
Et une arrestation qui a évidemment fait réagir une partie de la classe politique, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a suscité un trouble en exprimant la semaine passée sa fascination pour Éric Drouet. Jean-Luc Mélenchon donc parle de nouveau de police politique en France. Un terme repris par un autre gilet jaune, Benjamin Cauchy, qui pour rappel avait été reçu à l'Élysée début décembre.
La fermeté érigée en porte-drapeau lors de l'intervention du 31 décembre du président de la République se traduit par une police politique, une justice à deux vitesses dans le pays. On arrête M. Drouet qui vient déposer des bougies pour rendre hommage aux 10 victimes de ce mouvement social, alors que le 31 décembre, il y a des centaines de voitures qui ont brûlé en France, il y a des centaines de délinquants qui ont brûlé des voitures, il y a des centaines de vendeurs de drogue qui depuis des décennies gangrènent la jeunesse de notre pays, et j'ai l'impression qu'on met plus d'énergie à arrêter M. Drouet et ses amis qui viennent déposer des bougies que des personnes qui viennent brûler des voitures. L'attitude du gouvernement et du président de la République va ne faire que mettre de l'huile sur le feu. Je peux vous assurer que l'arrestation de M. Drouet est le premier acte des futures élections européennes.
Un gilet jaune, Benjamin Cauchy. Alors, autre réaction hier soir, celle d'Aurore Berger, porte-parole des députés La République En Marche à l'Assemblée. Éric Drouet, dit-elle, a été arrêté non pas en raison de ses idées, mais parce qu'il a enfreint la loi. Pour répondre, entre autres, au malaise social du moment et en prévision aussi des élections européennes, il se murmure que l'Élysée pourrait recourir au référendum. Le député La République En Marche, Sacha Houlier, l'explique en tout cas. Ce pourrait être une consultation à questions multiples sur la réforme des institutions. L'annonce, dit encore le député, devrait être faite au printemps, après les résultats du grand débat national. Cela éviterait ainsi d'évoquer un référendum d'initiative populaire, comme le réclame des gilets jaunes. Et cela, Steven Goyer, ne remettrait pas en cause la parole du chef de l'État.
Si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum.
Emmanuel Macron l'avait affirmé devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Et l'actualité de ces dernières semaines est venue redonner du relief à cette idée de consultation populaire. Plusieurs questions pourraient bientôt être posées aux Français sur leurs institutions. La reconnaissance du vote blanc, le nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose de proportionnelle, mais aussi l'organisation d'autres référendums. Un référendum sur le référendum en soi, Aurélien Taché, député LREM du Val-d'Oise.
Pourquoi pas rediscuter dans le cadre de cette concertation de son périmètre? Moi, je suis assez favorable à ce qu'on ouvre les conditions pour déclencher ce référendum d'initiative populaire, à condition qu'il ne puisse pas porter sur n'importe quel sujet. Par exemple, tout ce qui relève des libertés fondamentales doit pouvoir être préservé dans le cadre de discussions qui ne sont pas celles d'un référendum simple comme ça.
Un référendum qui pourrait avoir plusieurs avantages pour l'exécutif. D'abord symboliquement, en ouvrant à tous la participation aux décisions, mais aussi parce que la consultation pourrait bien mettre sous cloche les demandes de référendum d'initiative citoyenne relayées par les Gilets jaunes, demande toujours mal perçue du côté de la majorité, notamment de Sacha Houlier, député de la Vienne.
L'initiative législative, elle est parlementaire ou exécutive, qui par ailleurs ça entraînerait beaucoup de dérives populistes que je condamne. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si les citoyens souhaitent s'exprimer sur le fonctionnement des institutions, alors on doit pouvoir leur donner le loisir, et ce loisir-là doit pouvoir être offert à l'occasion de la réforme constitutionnelle, soit dans sa forme initiale, soit dans une forme améliorée, telle qu'issue du débat.
Reste aussi une question en suspens, le caractère décisionnel ou non de ce référendum.
La mobilisation des gilets jaunes n'étant pas terminée et en plein rebondissement dans l'affaire Benalla, Sylvain Faure, le patron de la cellule de communication d'Emmanuel Macron, annonce qu'il va quitter ses fonctions. Il met en avant des raisons personnelles. Ce départ effectif le sera d'ici la fin du mois de janvier.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Un 13e jour de shutdown va commencer aux États-Unis.
Oui, de paralysie partielle. Les activités de l'État fédéral sont à l'arrêt. Hier, pour la reprise des débats au Congrès américain, Donald Trump s'est une nouvelle fois montré inflexible. Inflexible sur le financement du mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique. Les rapports du locataire de la Maison-Blanche avec les démocrates et les républicains se compliquent, Loïc Loury.
Les républicains au Sénat, les démocrates à la Chambre. Le Congrès est désormais coupé en deux et cela ne devrait pas faciliter les négociations autour du shutdown. L'opposition à Donald Trump, en effet, semble revigorée. Elle dispose de réels pouvoirs, notamment celui de fixer le cap législatif. La très expérimentée Nancy Pelosi devrait reprendre son rôle de speaker à la Chambre et orchestrer l'offensive dès aujourd'hui. Les démocrates comptent ainsi faire voter deux lois budgétaires qui prendront ensuite la direction du Sénat. Sauf surprise, la Chambre haute devrait alors bloquer le texte, scénario très négatif pour Donald Trump qui apparaîtrait comme le responsable de la paralysie fédérale. Le président pourtant ne lâche rien, il accuse l'opposition de sacrifier la sécurité des frontières pour des raisons, dit-il, purement politiques, avec en ligne de mire la présidentielle de 2020. La course, il est vrai, est bel et bien lancée. Une première figure démocrate, Elizabeth Warren, a exprimé récemment ses ambitions. Cette rentrée politique pourrait donc voir chaque camp se recroqueviller un petit peu plus. Républicains comme démocrates veulent imposer leur agenda. Cela commence par une victoire dans ce bras de fer autour du shutdown, autour de ce mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine.
Et notons que Donald Trump a convié les responsables démocrates et républicains à une nouvelle rencontre à la Maison Blanche. Ce sera demain. Il réclame toujours plus de 5 milliards de dollars pour financer son mur. Le Venezuela aura été le pays le plus violent au monde en 2018, hors zone de conflit. Voici la conclusion d'un rapport de l'Observatoire vénézuélien de la violence. Le pays dépasse le Honduras et le Salvador, même si lui aussi a connu une légère baisse du nombre d'homicides l'année dernière. Paradoxalement, c'est l'une des conséquences de la crise économique qui frappe le pays, Benjamin Delisle.
Selon le directeur de l'Observatoire vénézuélien de la violence, Roberto Briceño León, cette baisse s'explique avant tout par une censure du gouvernement chaviste.
Il nous semble qu'il y a une décision politique pour ne pas recenser les délits. Non seulement cela permet d'éviter que ces données dérangeantes sortent du pays, mais cela permet aussi qu'elles ne soient pas connues ici.
Le sociologue estime tout de même que deux facteurs peuvent avoir fait baisser ce taux d'homicide. D'abord, la politique d'élimination pure et simple des délinquants par la police. Un tiers des 23 000 homicides commis en 2018 l'auraient été par des forces de l'ordre.
Cela veut dire qu'au Venezuela, nous avons des membres des forces de l'ordre qui tuent chaque jour en moyenne 20 personnes. Ils tentent de justifier ce que nous estimons être des exécutions extrajudiciaires par l'argument de la résistance aux autorités. Mais ce que nous décrivent les familles et les groupes de défense des droits de l'homme, c'est l'inverse. La police cherche directement les délinquants pour les éliminer et en finir.
Autre facteur, l'émigration des délinquants qui n'ont plus rien à voler à cause de la crise économique. Une crise justement qui modifie la violence au Venezuela.
En particulier avec l'apparition des délits de famine. Comme les gens n'ont rien à manger, ils se retrouvent obligés de voler de la nourriture.
Ce ne serait donc plus le crime organisé qui fait du Venezuela le pays le plus dangereux du monde, mais bien le désespoir d'une population devenue trop pauvre.
Et pour rappel, le Fonds monétaire international estime pour l'année qui vient, en 2019, que l'inflation au Venezuela pourrait atteindre 10 millions de pourcents. Le chiffre d'affaires d'Apple au premier trimestre sera inférieur à la prévision du groupe américain. Il évoque en particulier, pour expliquer cette baisse à venir, la baisse de la demande en Chine. La Chine qui décidément se place un peu plus sur le toit du monde en ce moment, grande puissance économique, puissance spatiale également. Elle devient le premier pays à réussir l'annulissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Son module avait quitté la Terre le 8 décembre dernier. Et il s'est posé donc à 3h26 cette nuit, Angélique Forger.
Pendant toute la phase d'alunissage, les médias chinois sont restés très discrets. Ce qui se passait était historique, mais la propagande d'État, craignant trop un échec, avait interdit toute communication sur l'événement. Puis l'appareil s'est posé sans encombre et les médias se sont emballés. Le Global Times titre « C'est une histoire incroyable ». En posant Chang'e 4, c'est le nom de l'engin, sur la face cachée de la Lune, la Chine a réalisé ce qu'aucun autre pays n'avait réussi jusqu'ici. Un défi immense, car les communications sont beaucoup plus difficiles qu'avec la face la plus proche de la Terre. L'un des principaux objectifs de l'appareil sera d'étudier les basses fréquences radio. Il devra aussi analyser les ressources en minéraux. Pour rattraper les États-Unis ou l'Europe, ces dernières années, la Chine a investi des milliards d'euros dans la conquête spatiale. C'est une priorité pour le pouvoir chinois qui veut en faire un symbole de la puissance du pays. Ses prochains objectifs, poser un taïkonaut sur la Lune avant 2030 et l'exploration de la planète Mars.
Angélique Forger depuis Shanghai pour France Culture, après donc cet alunissage d'un engin chinois cette nuit. Et pendant que l'on explore l'espace, la Terre, elle, est de plus en plus polluée. Au moins 270 conteneurs ont été perdus en mer du Nord. Ils proviennent d'un navire venu d'Asie qui se rendait en Allemagne. Une vingtaine de ces conteneurs se sont déjà échoués sur sur des îles au nord des côtes néerlandaises. Mais il en reste beaucoup actuellement en mer, dont 3 ne sont pas encore localisés et ils contiennent une substance potentiellement dangereuse. Les éclaircies vont se généraliser en France sur quasiment tout le pays ce jeudi. Un temps sec mais frais avec le retour des gelées matinales dans les terres. Comptez ce matin moins 1 degré à Grenoble et à Besançon, 1 degré à Bordeaux et Bayonne, 3 à Lille et Paris, 6 à Marseille, 9 degrés à Perpignan.